Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau carnet de région, votre magazine d'actualité régionale produit par plusieurs radios associatives non commerciales en Languedoc Roussillon. Pour ce mois de décembre, c'est Radio FM Plus Montpellier qui assure la rédaction en chef. Au sommaire de cette édition, le week-end dernier s'est déroulé les 17e éco-dialogues du Vigan dans le Gard. Ensuite, inauguration en grande pompe de la gare Saint-Roch, c'était ce lundi à Montpellier. Puis nous irons du côté de Carcassonne, malgré son climat économique particulièrement morose. Une structure à levant en poupe, les détails dans un instant. Après le quatrième épisode pluvieux dans l'Hérault, le barrage d'Avennes sur l'Orbe a-t-il joué son rôle? Enfin à Saint-Félix-de-Palière, la pollution de l'après-mine, quels sont les remèdes aux dégâts de l'exploitation minière? Quel paysage pour demain? C'est la question posée par les éco-dialogues pour leur 17e édition. Comme à chaque édition, les organisateurs ont mis en place toute une série de conférences, d'ateliers, de visites sur le terrain pour permettre d'allier les discours et le concret. Pierre-Maurice Muller, élu à la mairie du Vigan, qui organise cette manifestation, explique comment une mairie peut influencer l'environnement.
Ça peut aller des gens qui ont mis des marquages au sol et qui ont un petit peu pas pris la bonne peinture pour le faire. Au PLU, bien entendu, le PLU c'est le plus important parce que là on a quand même zoné de grosses unités paysagères en zone agricole ou naturelle. Donc ça c'était dans les recommandations du PLU d'ailleurs, d'éviter d'avoir des zones urbanisables qui n'étaient pas nécessaires. Donc on a eu un travail qui n'a pas un impact comme ça très visible, mais qui est quand même pour l'avenir du paysage, parce que ça joue sur le long terme, hein, le paysage, c'est important. Après, ça peut être la rénovation du centre ancien, ça peut être, qui n'existe pas encore, mais qui sera peut-être une charte pour l'urbanisme, hein, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant, donc qui veut peindre ses volets en vert fluo peut. Donc on peut améliorer les choses. Il y a eu le paysage des petits commerces qui est un problème au Vigan, les petits commerces, hein, parce que c'est très difficile. Bon, il y a le FISAC qui les a aidés à améliorer leur façade, leur vitrine, changer une porte, etc. etc. Donc le paysage dans le travail d'un élu, il est là en permanence en sous-face.
La question des paysages est primordiale dans cette région du Vigan, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Écosse et les Cévennes ont en effet été nommées au titre de l'agropastoralisme. Une entente interdépartementale a été créée pour gérer ce label UNESCO avec différentes formes de gestion. Morgane Costemar est chargée de mission patrimoine pour l'entente interdépartementale.
Un observatoire photographique, c'est un outil qui suit une méthodologie bien précise qui est dictée par le ministère de l'écologie et qui consiste en fait à prendre des photos toujours sur la même focale, le même point de vue, à espace régulier pour mesurer une problématique qu'on souhaite illustrer et pour laquelle on souhaite voir comment elle évolue positivement ou négativement. On a réparti un peu plus de 90 points sur 6 ou 7 problématiques. Donc on a l'évolution des pratiques agricoles, l'ouverture et la fermeture des milieux, l'urbanisation, les paysages emblématiques, le développement touristique, voilà, tout ça, c'est des problématiques qu'on souhaite suivre. Un paysage, c'est quelque chose qui évolue et qui est partagé par plein d'acteurs. Le paysage est façonné par tous ces acteurs. Si on regarde bien, le paysage n'est jamais neutre et on trouvera partout la trace de l'homme. Et on arrivera peut-être, en le lisant correctement, à voir les clés, les utilisations. Et voilà, c'est quelque chose qui est entièrement soumis à l'homme finalement.
C'était un reportage de Rémi Goujon pour Radio Escapade. Inauguration en grande pompe de la gare Saint-Roch ce lundi à Montpellier. Après 3 ans de travaux et un investissement de plus de 57 millions d'euros, partenaires financiers et élus locaux se félicitent de cet ouvrage moderne. L'occasion rêvée pour évoquer les projets futurs et l'arrivée du train à 1 euro le 5 janvier en gare de Montpellier. Damien Allary, président de la région Languedoc-Roussillon.
Ben écoutez, le train à 1 euro, on est en train d'y travailler, de créer à la fois toutes les conditions avec notre propre logiciel que nous avons mis en place, qui est en place. Et on a la certitude que le 5 janvier, le train à 1 euro fera partie du paysage languedocien pour les concitoyennes et concitoyennes. Je crois que c'est quand même quelque chose de très fort parce que c'est un pouvoir d'achat donné à toutes celles et ceux qui se déplacent. Et je l'ai pu le vérifier moi-même, déjà quand on a fait le bus, nous dans le Gard, etc. On a donné à des étudiants un pouvoir d'achat entre 700 et 800 euros par an. C'est pas rien. Et dire qu'avec 1 euro, on pourra circuler partout dans la région et arriver au centre de Montpellier, au centre de Nîmes, au centre de Carcassonne, enfin partout dans cette région, y compris à Mende, je trouve que c'est une très belle mesure. Beaucoup nous l'enviraient. Ça coûte effectivement de l'argent, je ne dis pas que ça coûte rien, mais c'est un sacré défi qu'on est en train de faire vis-à-vis de la mobilité.
Horizon 2020, 10 millions de voyageurs devraient se croiser sous la nef de la gare Saint-Roch. Alors une deuxième gare est en projet, celle de la gare de la Mogère, sans oublier la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Damien Allary.
D'abord, tous les trains régionaux arriveront ici. Il faut donc. Alors il y aura quelques TGV aussi qui arriveront ici, mais il y aura essentiellement des terres. Mais il faut maintenant une deuxième gare pour faire passer les TGV et les faire surtout arrêter à Montpellier. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir qu'on arrive à gagner la bataille de la ligne Montpellier-Perpignan, parce que comme je disais tout à l'heure, le plan Turin-Lyon ne verra pas le jour, on en a la certitude. Et je vais demander au président de la République, je l'ai déjà fait avec le Premier ministre d'ailleurs, à M. Valls, de dire qu'il faut consacrer tout l'effort du gouvernement français et de l'État pour que ce projet Montpellier-Perpignan voit le jour et que l'État le porte au niveau européen. Je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est le seul projet français qui est crédible. Donc à partir de là, on ne devrait pas avoir de mal à le faire passer au niveau de l'Europe. Et si ce projet sort, ce que je crois, fortement, il est d'ailleurs inscrit, une partie a été inscrite dans les études pour le contrat de plan, État-région que je vais signer bientôt, avant le décembre, enfin avant la fin de décembre, eh bien on aura là un corridor effectivement qui va réunir l'Europe, tous les pays d'Europe avec le Sud, et ça c'est merveilleux.
Merveilleux, ce n'est pas l'avis de tout le monde concernant la future gare de la Mogère. Beaucoup restent critiques, notamment l'association Sud TGV Territoire Environnement. La ligne Montpellier-Perpignan reste quant à elle à l'étape d'études préalables. Un sujet de Lauriane Avard pour RCF Hérault.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Dans un climat économique particulièrement morose à Carcassonne, avec des menaces de fermeture de l'atelier Chippy, vieux de 50 ans, et du Chrono Drive, ouvert l'an dernier, une structure a le vent en poupe. C'est la belle histoire du restaurant d'insertion Les Métissés. Reportage de Nathalie Dessousse, RCF Pays d'Aude.
On parle du tissu économique carcassonnais et voici une meilleure nouvelle. Il s'agit de l'association Le Trenel qui œuvre pour l'insertion de personnes fragiles par l'emploi et l'emploi dans la restauration. C'était il y a 6 mois l'ouverture de ce tout nouveau restaurant d'insertion Le Trenel rue du Pont-Vieux. Le restaurant du Trenel Les Métissés recevait aujourd'hui donc une dotation exceptionnelle de la part d'AG2R La Mondiale, la fondation d'une caisse de retraite. Nous écoutons son responsable de développement, Frédéric Soulier.
Le groupe, si vous voulez, est un acteur important dans la santé, dans la prévoyance, la retraite et l'épargne. Et le cinquième métier du groupe, c'est l'action sociale. Et à cet effet, donc, nous intervenons sur plus de 60 projets par an au niveau du Languedoc-Roussillon. Et aujourd'hui, nous sommes donc au Trenel à Carcassonne pour remettre ce chèque de 20 000 euros pour soutenir donc les travaux qui ont été faits par rapport à ce restaurant d'insertion.
Ce sont quelles personnes exactement que vous voulez aider indirectement ?
Si vous voulez, nous, on a un mandat, à travers des budgets importants qui nous sont consacrés, de redistribuer ces budgets selon quatre orientations précises. L'accès ou le retour à l'emploi de publics fragilisés. Le deuxième, c'est sur les aidants familiaux. Le troisième orientation, c'est donc les clés du bien vieillir. Et le quatrième et dernière orientation, enfin, c'est donc l'accompagnement du grand âge en perte d'autonomie.
Le restaurant d'insertion Les Métissés a ouvert donc pour vous il y a 6 mois. N'hésitez pas à aller faire un tour rue du Pont-Vieux à Carcassonne pour profiter de ce tout nouvel établissement aidé par la région.
L'Hérault. L'Hérault vient de subir un quatrième épisode pluvieux exceptionnel le week-end dernier, particulièrement touché les villages des Hauts-Cantons où, à l'image de Bédarieux, les dégâts sont considérables. Après l'urgence de la situation, des questions, des interrogations se posent quant au barrage d'Avennes sur l'Orbe qui a effectué un lâcher d'eau dans l'après-midi du vendredi. Quel rôle a joué le barrage ? Fallait-il anticiper la météo ? Faire un lâcher plus tôt dans la journée ? On écoute le maire de Bédarieux, président de la communauté de communes, Antoine Martinez.
Je pensais que ce barrage, qui est un écréteur de crues, qui a permis d'ailleurs à Bédarieux pendant des décennies d'éviter des inondations qui étaient catastrophiques, où il y avait des morts chaque année. Il faut savoir qu'avant que ce barrage ne se construise, l'eau déferlait systématiquement sur la ville. On avait construit des digues, on l'avait protégé, mais qu'il y avait des morts chaque fois. Donc ce barrage, dans un premier temps, il a été ressenti. Il y a eu beaucoup moins d'ailleurs d'inondations. Alors qu'aujourd'hui, il dysfonctionne. Ils ne répondent pas aux besoins d'aujourd'hui, et sans doute à tout ce flux d'eau qui tombe maintenant de manière démesurée. C'est possible. Nous aurons quelques réponses avec le directeur de BRL qui viendra expliquer aux élus de l'intercommunalité comment fonctionne ce barrage. Il semblerait qu'il y ait quelques dysfonctionnements quand même, selon les témoignages que nous avons eus ce soir en présence de monsieur le préfet.
Alors tout d'abord, sachez que le barrage d'Avennes a été fait pour distribuer de l'eau potable et de l'eau pour l'irrigation, mais absolument pas pour faire de l'écrétage de crue. Donc il a joué son rôle, c'est sûr. Il a écrété la crue, pas autant que ce que le territoire l'aurait souhaité, parce que le barrage était à un niveau très important au moment de cet événement exceptionnel.
Qui décide et à quel moment on prend la décision là, de vendredi après-midi de faire par exemple un lâcher d'eau ?
C'est le gestionnaire du barrage, c'est le baron Languedoc qui décide en observant un peu quelle est la situation pour écréter au mieux les crues. Et je crois que c'est ce qui a été fait malgré l'importance des débits qui ont pu être constatés sur Avennes, sur Lunas et sur Bédarieux. Alors bien sûr, il y a, comme toujours, une polémique et il faut se donner du temps, quelques jours de recul pour analyser cela dans le détail, pour voir s'il y a ou pas possibilité d'améliorer cette gestion de l'aménage des crues qui, encore une fois, n'est pas une des fonctions assignées à cet ouvrage.
A-t-il été fragilisé à l'issue de cette crue, le barrage ?
Absolument pas. Vous savez, cet ouvrage, chaque année, il fait l'objet d'une scrutation par les services de l'État. Il est surveillé annuellement et donc le prochain contrôle démontrera très certainement qu'il tient, contrairement à ce qui a été annoncé très fort malhabilement, s'il vous
plaît. Voilà, et qui alimente effectivement peut-être la rumeur ou l'inquiétude des gens, des riverains ou des... Oui.
Vous savez, les riverains, avec l'eau qui arrive chez eux, sont déjà suffisamment inquiets pour en rajouter avec des rumeurs infondées.
Sujet réalisé par Alain Mendes de Radio Lodev. Au moment où se discute une réforme du code minier qui prévoit de rénover le dispositif de gestion de l'après-mine pour remédier aux dégâts de l'exploitation minière, l'association alésienne Bastagaz a voulu porter son regard vers les communes gardoises de Saint-Félix-de-Palière et de Toiras. À quelques kilomètres d'Alès, un site de 2000 hectares situé sur ces deux communes est confronté à une importante pollution par des éléments toxiques, dont des métaux lourds qui exposent la population à des risques de contamination. Différents rapports et des analyses inquiétantes ont révélé des taux élevés de toxiques qui nécessiteraient une action curative. À ce jour, aucune étude épidémiologique n'a été réalisée et aucune opération fiable de dépollution n'a été entreprise malgré les risques sanitaires encourus sur place. Les explications de Claude Taton du collectif Bastagaz et d'un ancien riverain de ce site, Johnny Bowie.
Ce sont des anciennes exploitations de mines de plomb et de zinc. Bon, la mine a fermé en 71 Et depuis 40 ans, il n'y a eu aucune opération, on va dire, fiable de dépollution du site. Donc actuellement, il y a une pollution extrêmement importante en éléments traces toxiques et en métaux lourds qui affleurent, on va dire, à même le sol et qui contaminent les eaux. Et là, ça nous montre en fait qu'il y a un réel problème, parce qu'on se demande pourquoi cette pollution n'est pas prise en main et pourquoi le public n'en est pas informé largement, puisque actuellement le site est complètement ouvert. Il n'y a aucune mesure de protection qui aujourd'hui a été prise et surtout aucune information du public.
Alors à vos côtés, Claude Taton, un lanceur d'alerte, ancien habitant de Saint-Félix-de-Palières, qui depuis des années essaye d'alerter autorités et public. Johnny Bowie, vous avez l'impression de prêcher dans le désert ?
Oui, malheureusement. Tout d'abord, ma femme, elle est née à Saint-Félix-de-Palières. Elle m'a dit une phrase très dure il y a quelques jours. Elle m'a dit « Je pensais être née sur une terre de vie, en réalité, je me rends compte que je suis née sur une terre de mort ». On a plusieurs millions de tonnes de déchets toxiques très concentrés en plomb, incroyablement, avec des taux absolument faramineux, 400 000 mg de plomb par kilo. Le seuil normal, c'est 50 mg, et à partir de 150 mg de plomb, on doit déjà prendre les mesures. À partir de 500 mg, au-dessus de 500 mg, il y a obligation de nettoyer, de confiner, de sécuriser le site. Ce sont des substances extrêmement cancérigènes, extrêmement dangereuses.
Vous parlez de lieux ouverts aux promeneurs, c'est-à-dire que le public peut se rendre sur ces sites pollués et extrêmement dangereux pour la santé ?
Absolument, oui, même si aujourd'hui il y a une ou deux pancartes qui indiquent que le lieu propriété privée. Mais il n'est même pas marqué interdit d'entrer, et c'est très facile d'y entrer. On voit souvent des promeneurs, des touristes qui trouvent une zone bien plate sur le dessus du terril, qui s'assoit sur une couche de terre qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui et qui était elle-même contaminée, mais parfois à même sur l'arsenic, le plomb, le cadmium et autres produits toxiques. Quand j'habitais là-bas, moi, avant d'abandonner ma maison empoisonnée, à un kilomètre de là, les maisons sont empoisonnées. Je voyais des touristes qui prenaient leur petit casse-croûte parfois, avec les enfants.
Ce scandale environnemental de Saint-Félix-de-Palières ne serait-il pas l'arbre qui cacherait la forêt ?
Il faut savoir quand même que Frédéric Auger, scientifique géographe au CNRS, a écrit un livre aux éditions Librio en 2004, « Cité sol pollué en France ». C'est lui qui était chargé par l'ADEME et par le BRGM de recenser tous les sites pollués en France.
Claude Taton, le site de Saint-Félix-de-Palières serait l'un des sites pollués parmi 150 000 sites. C'est énorme ce chiffre.
Oui, c'est énorme. Même pour moi-même, c'est surprenant parce que je mesurais pas non plus l'ampleur en fait de cette pollution. C'est Frédéric Auger qui a fait donc une sorte de recensement des différents sites pollués en France. Et c'est lui qui avance ce chiffre de 150 000 et qui a été repris aussi par les journalistes de RFI, donc qui ont investigué pendant plusieurs mois sur la mine de Saint-Félix-de-Palières et qui reprennent ces données dans leur web documentaire.
Cet excellent et accablant web documentaire réalisé par les journalistes Alain Renan et Arnaud Jouve de RFI est visible à partir de l'adresse webdoc.rfi.fr. C'était un sujet de Yves Defago pour Radio Grille Ouverte. C'était Alim avec vous pour votre carnet de région, une émission produite et réalisée par plusieurs radios associatives non commerciales en Languedoc-Roussillon. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux reportages, même heure et même micro. Bye bye.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.